Donc, bienvenue à tous au webinaire d'aujourd'hui sur la foi et la transformation des cycles intergénérationnels de la violence. Et une focalisation ici sur la foi et la violence contre les enfants, et également sur les pratiques communautaires sur la foi et les LGBT. Donc, je sais que les gens nous rejoignent encore progressivement. Aujourd'hui, nous allons participer. Nous aurons la participation de plusieurs institutions de foi et je vous prie de respecter la diversité et pour quelques règles du bien-séance, restez désactivés au niveau de votre micro. Vous pouvez utiliser le chat pour les réactions, les questions et réponses pour donner vos commentaires par rapport à cette séance. Ce webinaire est en anglais, mais nous avons une interprétation vers le français qui est fournie. Donc, vous pouvez cliquer sur les boutons d'interprétation pour écouter dans votre langue de préférence. Et nous nous excusons pour cela. Tala gère la tech. Ce webinaire est enregistré et sera publié sur notre site web. Donc, vous pouvez également éteindre vos caméras. Notre sujet aujourd'hui est plutôt personnel. Nous avons été tous enfants une fois et nous sommes tous d'une certaine manière connectés au cycle intergénérationnel de violence. Et nous avons été parfois également des témoins. Des survivants. Nous allons avoir les témoignages des survivants sur notre panel également. Nous les souhaitons la bienvenue. Nous sommes engagés à faire de cet exercice en fait, nous demandons aux participants d'être conscients de ce qu'ils publient dans le chat pour leur propre parcours et celui des autres. Et que cela soit centré sur les sujets mentionnés, notamment sur les violences faites aux enfants. Donc, nous allons écouter davantage des bouleversements dans la vie des femmes et des enfants et leur impact sur les victimes de ces violences. Nous allons voir également les normes sociales comme un facteur clé là-dessus. Nous savons que la foi religieux n'est pas souvent considéré dans cette discussion. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous focalisons dans cette séance ensemble pour une heure pour intégrer ces experts et dans notre panel aujourd'hui, nous allons avoir. Vous allez voir quatre personnes sur notre panel. Ils sont des contextes géographiques et professionnels multiples et qui vont contribuer à la réflexion aujourd'hui. Je ne vais pas prendre tout le temps pour les introduire tour à tour de façon extensive, mais de façon bref, nous avons Marisha et notre thérapeute de famille. Une leader de la foi basée en Afrique du Sud. C'est une survivante également. Nous avons Tania, qui est une travailleuse sociale avec beaucoup d'années de travail au Royaume-Uni. Elle est également leader de protection dans l'Église. Et elle est chrétienne. Nora, c'est un praticien de protection de l'enfance très expérimenté en Asie. Il travaille avec l'institution islamique au Pakistan et il travaille également avec des survivants victimes d'abus transsexuels. Nous avons également Suzanne qui est candidate en PhD et travaille avec des survivants. Nous avons également Célina, féministe théologienne, leader de la foi et qui travaille également en tant qu'expert sur le droit des enfants. En écoute, nous allons donc passer aux différents panélistes. Premier intervenant va mentionner la foi, son implication et le deuxième va parler de son impact transformationnel. Donc, n'oubliez pas d'inclure vos questions dans le chat, de les réserver en attendant que les présentations se fassent. Donc, après ces présentations, nous allons commencer par Merisha. L'une des questions qui résonne énormément dans nos activités, c'est l'idée que le traumatisme qui n'est pas transformé est transmis. Et je sais que vous avez fait l'expérience de ce traumatisme vous-même en grandissant dans un contexte de foi et le silence et la honte qui vient avec. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un tout petit peu à propos de ce point et nous éclairer là-dessus et voir comment on peut s'y référer, créer des connexions avec notre propre enfance à ce propos. Merci beaucoup. En tant que suivante d'abus sexuels dans l'enfance, créer des traumatismes quand je grandissais, je ne me réalisais pas à quel point c'était troublant. C'était une sorte de secret gardé. Et quand j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment un abus, j'avais honte, j'avais l'impression de ne pas pouvoir me confier à qui que ce soit. Et dans ma famille, avec les leaders religieux autour de nous, on ne parlait jamais de ce genre de violation. Et c'était également à une période de bataille et que nous vivions également. Donc, je ne me sentais pas rassuré de partager ce qui se passait. C'était également considéré dans nos familles qu'on ne parle pas vraiment de ces choses. Et quand j'y repense, voilà, il fallait garder pour soi ces histoires. Et j'ai vu la face du traumatisme quand moi-même je me suis retrouvé en train de me braquer sur moi-même, détester les hommes en retour. Dans mon parcours, j'ai pu comprendre que je ne peux pas guérir de ce que je ne peux pas révéler. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de faire un exercice réflexif. Et ce serait un moment pour nous et de jouer un peu avec tout cela et de nous dévoiler. Et quand vous avez un peu de temps, vous pouvez essayer ces petits jeux de vous-même. Donc, c'est une expérience qui rend des expériences qui rendent content, triste ou en colère. En tant que femme, dans ma vie personnelle, il m'était dit que je ne pouvais pas être leader de foi et les enfants dans nos églises devraient être calmes et silencieux. Donc, tous ces moments ont façonné ma personne, mon comportement et mes relations. Et également, je partage cela parce que briser le silence est difficile, mais cela vous permet de commencer le voyage pour faire face au traumatisme et parce que le traumatisme n'est pas transformé. S'il n'est pas transformé, il est transmis. Donc, cela affecte nos foi. Et dans notre espace de foi, il y a cette question du silence, mais également la victimisation et l'accusation des victimes parfois. Et la plupart du temps, cela est mal utilisé parce que, voilà, dans les textes religieux, parfois, on pousse les hommes à être dominants et. Les leaders sont appelés à être silencieux et sur certains sujets. Et quand vous êtes. Il est même dit que quand vous souffrez, vous devez souffrir comme Jésus l'a fait et avoir le sens du sacrifice. Et on se retrouve dans une sorte d'abus collectif parce qu'en tant que personne de la foi, nous devons vraiment interroger ces comportements et voir comment répondre aux douleurs. Je pense que beaucoup a été dit. Je pense qu'il faut souligner les activités réflexives et qu'après ce webinaire, que les gens puissent voilà, se servir de cela. Merci, ma chère. Merci. Tania, vous avez la parole. Votre travail en tant que travailleur social focalisé sur la famille et une responsable de la protection. À l'Église, est-ce que vous pouvez nous dire si la manière dont certains cadres religieux se comportent peuvent affecter les partenariats genre et comment est-ce que les enfants internalisent ces choses? Pouvez-vous nous dire à partir de votre travail et les projets sur lesquels vous allez travailler en Afrique et en Asie. Merci beaucoup, Célina. En tant que travailleuse sociale au Royaume-Uni, je ne comprenais pas véritablement comment ces croyances religieuses façonnaient les contextes et les comportements et des gens rapport à ces violences basées sur les gens ailleurs. Donc, j'ai constaté parfois, dans le cadre de la foi, si les comportements ne sont pas souvent bien compris, donc les études récentes dans le domaine de l'éducation au travail social, on s'est rendu compte que les questions religieuses ne sont pas très adressées dans ces recherches. Donc, de mon expérience, dans la réponse aux crises au Royaume-Uni, au Portugal, j'ai constaté que les croyances religieuses sont imbriquées dans les pratiques familiales et même parfois empiètent sur la façon dont les femmes vivent ces violences. Certaines pensent par exemple qu'endurer ces violences secrètement faisait partie du plan de Dieu, par exemple. Il y a donc les personnes se mettent donc parfois en retrait. Donc, dans ces cadres, c'est très difficile pour les femmes de vivre, les femmes victimes de ces situations, même quand le bien-être de leurs enfants sont compromis. Et les enseignements religieux considèrent souvent les femmes comme des nourricières, des gardiennes de la famille, des enfants dans la famille, de leur spiritualité et ces attentes peuvent mener à la soumission, non seulement en tant que partenaire, mais en tant que, voilà, membre d'une communauté, membre clé. Donc, la normalisation de la violence sur les enfants peut découler de cela. J'ai vu des enfants refuser qu'il y avait vraiment des violences dans leur famille, pourtant ce n'était pas le cas. Parce que parfois c'est accepté ici dans la famille. Et cela empiète non seulement sur le bien-être des enfants, mais ça a des conséquences intergénérationnelles parce que les enfants en grandissant internalisent ce contrôle parental et répliquent cela, et répliquent cette dynamique dans leurs propres relations et souffrent de reconnaître ces problèmes quand ils se produisent. Et un dernier aspect que je voudrais mentionner et souligner, c'est, vous savez, j'ai rencontré cela tout le temps dans mon travail, c'est le fait que la virginité des jeunes filles constitue un élément critique parce que j'ai croisé dans mes recherches cette culture de la pudeur et qui est liée à cette abstinence sexuelle entretenue dans ces milieux religieux. Les messages que ces enfants reçoivent dans ces cas influencent la façon dont ils se connectent à leur corps et cela affecte la façon dont différents abus sont reportés. Et quand il y a même ces cas, cela mène parfois à une honte personnelle de ces filles et les douleurs et les violences continuent à être perpétrées sous le guidage de ces leaders religieux. Maintenant, nous allons vous passer la parole à un autre expert depuis le Pakistan. Peut-être vous allez partager avec nous votre part d'expérience, surtout. Comment est-ce que toutes ces expériences ont façonné votre propre vie? Non. Merci, Célina. Bonjour à tous. Donc, en grandissant en tant que garçon au Pakistan, la discipline est souvent considérée comme une façon d'élever les enfants ou une correction morale. Mais cela a un aspect encore plus profond au niveau des blessure émotionnelle parce que beaucoup d'enfants, comme moi-même, ont fait l'expérience des mordus, des punitions corporelles, même à l'école comme à la maison, parce que à cause des considérations disciplinaires. Parce que là, Là où j'ai grandi, par exemple, les pratiques de sodomie sont très communes. Et les hommes sont très détachés des femmes. Et je veux vous parler de quelque chose que j'ai vécu à l'école coranique. J'ai quitté cette école à cause des modèles de discipline parce qu'on nous punissait énormément avec des fouets. Et quand je passais mon diplôme, là-bas, j'avais dit au leader religieux que c'était ça la seule raison pour laquelle j'avais quitté cette école religieuse à cause de ces pratiques. Donc, je pense que ce qui commence comme un processus de disciplinaire devient un moment de douleur et un cycle de douleur que les enfants vivent sous silence. Donc, beaucoup d'entre nous ont hérité cela comme faisant partie de notre foi parce qu'on nous avait dit que l'obéissance était quelque chose de sacré et que cela faisait partie de l'essence de la foi. Donc, de mon point de vue, je pense que cela constitue une distorsion des valeurs islamiques. Nous pouvons toutefois comprendre que ce n'est pas forcément ce que le Coran promeut parce que le Coran nous pousse au pardon. Et vous savez, il est dit dans le Coran, Allah dit que sa miséricorde inclut tout. Donc, quand nous répétons dans les violences et disciplinaires, tout ça très tôt, quand nous vivons cela comme enfants, on ne ressent pas cette miséricorde. Donc, pourtant, dans le Coran, Allah le dit qu'il n'est pas comme nous, les humains, qui ne montrent pas de miséricorde. Donc, je pense que cette discipline dure dans l'enfance et vraiment à l'antipode de cela. Merci, merci beaucoup. Et tu nous fais part de cela. Et il en ressort surtout cette idée dans la foi que l'obéissance est sacrée. Et pourtant, certains croyants causent de violence. Donc, Tania, est-ce que vous avez fait l'expérience de la violence dans l'enfance? Est-ce que dans votre propre mariage, vous avez vécu cela? Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment tous ces éléments de votre foi ont causé toutes ces violences et comment cela a permis à ce cycle de violence de continuer? Merci Célinia, merci à d'autres panélistes pour leurs commentaires. Mes souvenirs sont faits de douleurs et comment les cultures religieuses du Christ dans ma culture ont promu les abus et pas seulement pour ces moments-là, mais de façon continue dans plusieurs générations. Je vais vous partager par exemple mon cas personnel. D'abord, la distorsion de l'autorité. Les parents ont été amenés à être silencieux, même devant les abus. Et dans mon enfance, parler contre mon papa était interdit, carrément, c'était comme un péché. Cela m'a mené à un mariage où j'étais complètement soumise. Et ces distorsions ont continué au-delà de nos personnes. Si cela est institutionnalisé dans certaines églises où on nous dit de ne pas parler contre l'église, même quand le système a des manquements graves, j'étais obligé de me soumettre à tous les niveaux. Cela faisait des victimes comme nous, des personnes sans voix carrément, qui étaient censées tout vivre et accepter. Et il y a deuxièmement la question du secret. Les abus ont été labellisés comme une affaire privée de la famille et non comme un problème social. Donc, si le parent connaissait ce genre de problème dans sa famille, ça n'avait rien à voir avec l'Église. Et parler contre l'Église dans ce sens pouvait causer du tort à l'image de l'Église. Cela pousse les gens à être silencieux face aux abus et les enfants sont amenés à enterrer les secrets, les violences, les douleurs et cela est perpétré dans un cycle de violence. Je voudrais également parler également de l'usage du pardon comme une arme. On dit de pardonner, mais cela a été manipulé pour le profit de des personnes responsables d'abus. Par exemple, si mon papa faisait des abus, il me demandait de lui pardonner avec la photo du Christ en avant pour me pousser à accepter cette idée. Et cela, donc, me piégeait dans un cercle de pardon, de réconciliation, malgré tous les abus que je vivais. Donc, tout cela a changé quand j'ai découvert le travail d'un professeur de Harvard qui, dans sa théologie, avait souligné le fait que la réconciliation et le pardon étaient un travail du Dieu et non de notre part. Donc, tout cela montrait bien qu'il y avait un échec au niveau interpersonnel, et même au-delà, même au niveau de l'Église. En termes de réconciliation, même de l'Église avec certaines des victimes. Donc, cette vue tordue de l'autorité, du secret et du pardon n'a pas seulement permis les abus, mais il y a eu un moyen de faire que cela se perpétue. Merci, Suzy. Je suis très frappé par ces mots. Si la théologie du pardon viole les victimes, cela ne peut être dans la vérité. Je vous prie de prendre une pause, de reconnaître la bravoure de ceux qui ont partagé leur expérience et reconnaître que la première étape du partage est une première étape de reconnaître le problème. Tu voudrais qu'on se donne un moment de silence de 20 secondes où nous faisons face à la réalité et que nous, voilà, restons avec cette expérience du cycle intergénérationnel de violence. Merci. Nous allons avancer à notre second tour avec notre panel. Avant que nous ne commencions avec les interactions, je vous prie de continuer à mettre vos commentaires dans le chat. C'est une session plutôt courte, donc mettez toutes vos questions, réactions plutôt dans le chat parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour les interventions directes. Donc, nous allons maintenant avancer un tout petit peu sur la base de ce qui a déjà été partagé et pour voir comment est-ce que la foi peut être une partie de la solution et non une partie du problème uniquement. En tant que Meïcha, en tant que leader chrétien, dis-nous un peu ce que les enfants ont besoin de nous pour transformer ce cycle de la violence dans nos familles et dis-nous comment cela peut aider. Merci, Soulina. Comme nous l'avons dit, les traumas peuvent être transmis. Et on peut également en guérir. Et la guérison peut également être transmise. Donc, à la place du cycle de la violence, pour avoir un cycle de la guérison. Et il y a ce concept, par exemple, que je vais vous donner une image de l'oxygène qu'on met à soi-même avant de mettre à son enfant en situation de crise. Donc, on peut faire pareil, se guérir soi-même avant de guérir nos enfants. Il faut avoir un terreau fertile pour cela. Beaucoup de leaders religieux dans nos communautés sont des hommes et dans plusieurs milieux de la foi, il y a toujours cette masculinité violentante. Comment est-ce qu'on peut donc transformer cela en fait un élément de guérison? Et ça commence par la reconnaissance de ses erreurs et du fait que la reconnaissance qu'on a aussi été mal orienté par les autres. Cela peut être une source pour promouvoir la guérison et cela peut être le début de la réinterprétation des textes, des histoires, de la théologie à cet avantage. Donc, dans beaucoup de textes religieux, il faut qu'on revienne sur des questions d'égalité et de justice. Il faut trouver un alignement avec cela dans notre vie publique et privée. Donc, nos paroles doivent suivre notre travail, doivent être en alignement avec cela, parce que les enfants font ce qu'ils voient et les enfants qui nous regardent aujourd'hui deviennent les parents de demain. Donc, il serait vraiment ça pourrait aider qu'on soit surtout des exemples. Si nous constatons qu'il faut faire des choses autrement, commençons à la maison. Il y a cette possibilité chaque jour que nous avons auprès des enfants de montrer le bon exemple. Cela crée les meilleures expériences. Avec les enfants, on a donc ce test au pied du mur constamment. Il faut créer également des moments authentiques de connexion avec les enfants pour être proche de jouer avec eux, valider leurs actions, affirmer des choses, créer une vie de famille, créer ce genre d'espace pourrait aider à briser les cycles malsains passés. On peut continuer cela même à l'église pendant les services. Et il faut toutefois que cela parte de la maison, de nos foyers. Merci beaucoup, Jerry, et de l'idée que même dans les rencontres chrétiennes, il est possible de changer les choses. Je pense que c'est important, je vous écoute, ce que je retiens, c'est que nous pouvons aider les enfants de la meilleure manière en implémentant tout ce que vous avez proposé et à partir de là, on pourra créer des cercles positifs. Merci beaucoup de nous avoir donné cette astuce très pratique. Tania, je reviens à vous maintenant sur votre position en tant que travailleuse sociale. Et comment est-ce que vous pensez que la foi peut être partie de la solution? Nous voulons savoir un peu comment peut-être réimaginer Dieu d'une façon beaucoup plus égalitaire sur le plan genre. Je pense que c'est un rôle très important que les leaders religieux doivent jouer. Là, je pense que il y a vraiment un danger de ne pas les considérer dans la solution. Les leaders religieux ont un grand impact, une grande audience. Et puis, beaucoup de femmes demandent des conseils chez eux. Et cela se traduit dans la manière dont ils travaillent avec les enfants. Donc, ils ont une position pour influencer et partager des messages. Donc, ils font partie de la solution quand il s'agit de la libération. Ils doivent être dans la libération plutôt que le contrôle. Je pense que les communautés sont façonnées par les croyances religieuses et cela, je l'ai vu en Asie comme en Afrique. Et aujourd'hui, je pense que la clé sur le plan théologique aujourd'hui n'est pas de réinterpréter les Écritures, mais de réimaginer comment nous parlons de Dieu. Réimaginer la dignité du genre, l'égalité, la justice. Donc, de mon expérience, les narratifs religieux dominants se sont renforcés et partagés dans le monde et ont contribué à renforcer le patriarcat. Il faut aussi considérer l'image de Dieu comme une mère. Une sage-femme, une femme qui protège, et les images de Dieu également comme un enfant plus vulnérable. Donc, en tant que féministe maman, je suis très mal à l'aise avec cette image toujours très masculine de Dieu. Et je voudrais voir quelque chose de différent, quelque chose qui reflète des valeurs de nourricière, de sagesse, de prise de décision forte. Donc, autrement, cela renforce cette masculinité problématique. On peut prendre l'exemple de l'histoire d'Esther dans la Bible pour la mettre en avant pour les nouvelles générations. Je pense que cela va aider à démanteler les anciennes conceptions théologiques. Il va aider à endiguer ces violences basées sur le genre et par conséquent, avoir un impact positif chez les enfants. Dans mon propre travail, nous avons vu que les leaders religieux ont besoin d'être guidés pour avoir des messages beaucoup plus responsables sur le plan genre. Et cela va créer plus d'impact et voilà. Donc, comme je l'ai souligné plus tôt dans cette que durant la formation des travailleurs sociaux, les questions religieuses ne sont pas souvent très incluses et cela peut créer des distorsions. Devons donc faire des changements fondamentaux au niveau de la formation, y compris la formation des leaders religieux qui ne sont pas toujours très bien équipés. Donc, nous devons partir de là et renforcer les images que mettent les femmes dans leurs enseignements. Merci beaucoup. J'aime cette idée de réécrire le narratif parce qu'il est très terrifiant de penser qu'il faut tout changer, mais parfois il faut penser à la flexibilité nécessaire dans les traditions de la foi. Et j'aime beaucoup cette image que vous nous avez donnée de cette alternative dans nos tradition que nous contrôlons. Merci beaucoup. Donc, non, je vous reviens en tant qu'activiste de la protection de l'enfant. Ok, tout cela nous rappelle que la foi, ce n'est pas une question de contrôle, mais de compassion. C'est quelque chose que j'ai appliqué dans ma propre vie en tant que parent, parce qu'un parent, ce n'est pas une question de contrôle à tout prix, mais c'est une question de compassion et de connexion. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé parfois pour dans mes différentes activités. J'ai travaillé beaucoup de leaders religieux, des imams, et la foi peut également être un outil pour façonner la discipline quand nous comprenons que les vraies valeurs islamiques, si c'est nourri au lieu de punir dans l'éducation. Parce que nous vivons, vous savez, un contexte d'éducation de mes neveux et autres, mes enfants, je n'ai pas eu adopté cette attitude de punition parce que punir à tout prix peut causer des traumatismes à long terme. Donc, au lieu d'utiliser une discipline dure, je parle avec eux le plus possible. Nous devons jouer avec eux, comme notre panéliste l'a dit. Autre ressource que j'ai trouvée très utile comme outil dans l'éducation des enfants, si le fait que la meilleure tranche d'âge pour les enfants pour apprendre et la discipline, les 4 et les 8 premières années sont très importantes pour les nourrir, pour leur apprendre la discipline. Donc, il y a une chose que Merisha a également dit, c'est que les enfants ne suivent pas vos mots, mais plutôt suivent la manière dont vous vous comportez. Et j'ai Je conseille à enlever
Ouais.
la peur et remplacer cela avec l'apprentissage. Donc, nous demandons également aux enfants, nous étions avec eux, nous leur demandons de s'exprimer. Vous savez, quand j'étais enfant, voilà, j'ai eu cette
Des
tendance
choses par
à
moi-même pour
encourager
que
à se remettre à la place de ses enfants et je crois également que la foi peut jouer un rôle important dans à contribuer de façon très importante sur le plan communautaire pour le changement des enfants. Nous ne pouvons pas changer les systèmes, voyez-vous, sans changer les cœurs et les leaders religieux peuvent nous aider à redéfinir ce à quoi renvoie la force, à quoi ressemble la force, parce que il faut aligner le cœur à la tête. Et vous savez, j'ai travaillé également dans ces questions. Il s'agit donc finalement de ne pas dominer les enfants, mais leur témoigner compassion et miséricorde. Donc, je crois qu'il est temps que nous passons à écouter plus, à être plus patient, et c'est ainsi que nous allons mettre fin au cycle intergénérationnel de la
Cela
violence.
peut.
Et travaillons également avec les leaders religieux pour les pousser à la culture de mieux discuter avec les enfants. Et vous savez, si l'imam est tel que cela, vous savez, c'est un modèle pour les musulmans. Et si
Comporter, comment est-ce
s'il met cela en avant, et montre comment il se comporte avec les enfants, ça peut montrer l'exemple. Et je vous laisse avec ce message qui est pour fermer cette discussion. Comme le Coran nous dit, les enfants sont confiance d'Allah et non une possession. Et protéger leur dignité est une forme de louange. Et également dit que les enfants sont les meilleurs cadeaux d'Allah. Et notre prophète Mohammed Mahassalam nous dit que c'est une source de joie. Et je pense qu'en procédant
Étant ainsi,
ainsi, en connaissant tout cela, nous allons guérir générationnellement. Donc, nous devons honorer notre religion. La joie d'un enfant est un
la
rappel de
compassion,
comment Allah veut que nous soyons compassionnels
curiosité.
et Allah nous aime et il veut que nous transférons cet amour à nos enfants. Merci beaucoup. La joie de l'enfant n'est pas une distraction à la louange, mais c'est plutôt un rappel. J'aime beaucoup cela, merci. Et je mets cette activité. Quand j'étais enfant, que chacun intervienne dans ce sens dans le chat. Suzy, qu'est-ce que pensez-vous, de votre perspective, qu'est-ce qui peut être fait en termes de changement dans nos communautés, de par vos expériences, pour briser ce cycle? Et de votre expérience, quels peuvent être les défis à cela? Parce que je sais qu'il y a une certaine culture du silence en cours. Et vous avez la parole, excusez.
D'après
Merci beaucoup, c'est une question importante. Je crois que le changement le plus critique doit être de démanteler les mécanismes ritualisés qui enforcent les si, silences et l'inégalité. Et les rituels sont symboliques, vous savez, ce sont des moteurs, ils produisent des hiérarchies sociales et qui font des pouvoirs de voix genrées, des secrets et des choses sacrées. Donc, il faut former les gens à revoir cela. Il faut que les gens soient rééduqués à l'obéissance. Bon, en fait, les défis sont que le patriarcat est très mis en avant dans ces cadres religieux-là pour le salut. Et cela reste un fardeau pour les femmes qui priorisent le bien-être de leur famille et leur mari au-dessus d'elles-mêmes. Puis le faire autrement dans plusieurs traditions religieuses est une trahison. Donc, pour briser cela, il faut de l'action. Il faut revoir la théologie en y intégrant la l'égalité de genre. Et il faut les théologies sont historiquement contrôlées par les hommes. Il faut donc refaçonner nos cultures, nos politiques. Et nous pouvons imaginer cela d'une façon plus inclusive qui se focalise sur l'égalité, la dignité, l'équité. Il faut voir cela comme un moyen de libération pour tous, même si nous sommes dans la foi. Donc, je pense que il faut un plaidoyer pour le changement et que il faut prioriser les rôles publics et privés. Parler de cela. Vocaliser nos vérités.
L'histoire.
Donc, sortir de toutes les ordres familiaux qui nous poussent à la honte de parler. Ils sont des structures patriarcales qui sont installées avec le temps. Et ce statu quo s'est perpétré à silencier et des voix qui ont besoin de parler. Il est temps qu'on se lève. Il faut amplifier les histoires marginalisées. Et sans ça, nos plaidoyers ne vont pas être entendus. Il faut construire des réseaux de solidarité. C'est ce que nous faisons déjà ici, partager les histoires, réclamer les voix et refaçonner les rituels. Ensemble, nous pouvons briser ce silence, ce cycle des abus dans nos communautés religieuses en conséquence. Merci. Merci beaucoup, Suzy. Puis, c'est une volonté, pas
Stratégie
divine, mais une stratégie de contrôle. Et c'est
d'accord.
un de ces modèles Icositor doivent être remis en question. Et je pense, je suis très admiratif de la façon dont vous essayez de bouleverser le statu quo. Je suis très conscient qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat et je suis conscient que tout le monde voudrait en attendre davantage de nos panélistes qui sont des véritables contributeurs à notre cause. Nous aurons certainement l'opportunité d'aller un peu plus loin dans ces discussions. Donc aujourd'hui, nous vous donnions juste un aperçu pour que vous puissiez déjà réfléchir à cela. Merci à tous ceux qui commentent dans le chat. Il y a une question que je vais lire à haute voix. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, mais il y a une que j'aimerais surtout lire à haute voix. Si quelqu'un a une autre question, il faut voilà, le faire maintenant. Mais attendez, parce que nous allons juste permettre panélistes de répondre au fur et à mesure aux questions. Donc, la question, si quelqu'un d'autre voudrait donner des commentaires à ce propos et répondre à ces aux questions, vous pourriez le faire. Donc, Charisma dit que j'ai reçu récemment un cas d'une fille de 4 ans qui a été violée par son oncle. Elle était en deuxième matinée à la maternelle.
Elle a contacté une
Et
oui.
finalement, ils
Ah,
ont été obligés
donc,
de se
comment
marier.
est-ce
Comment est-ce que nous commençons pour briser ce genre de cycle de violence? Merci pour votre commentaire. Mérissa, je vais
que
vous poser la parole pour répondre. Il doit y avoir deux pièces jointes. Il y a deux activités également dans le chat qui ont été publiées plus tôt. Je vais les poster une fois de plus. Mérissa, vous avez la parole.
Mérissa, s'il vous plaît.
Merci. de partager cette histoire. Merci vraiment de vous rendre déjà
Question
disponible. Cet enfant de
d'être.
4 ans qui vient sur cet espace, c'est
Il
courageux. Pensez déjà à vous comme une personne qui a déjà commencé à briser ce cycle. Donc, si nous avons des personnes qui considèrent ces problèmes, le cycle peut a plus de chances d'être brisé. Et je voulais que vous le compreniez. Et je suis sûr que je prie que toute personne ici garde cet enfant et sa famille en prière. Quelque chose que je voudrais vous faire savoir, c'est que faut d'abord préserver la vie de cet enfant de 4 ans parce que la sécurité est privilégiée, parce que certainement elle n'est pas en sécurité. Essayez de voir si il y a des
très
instituts de police qui
important
peuvent intervenir pour la garder en sécurité. Et si essayez d'empêcher la situation de s'empire, il peut être nécessaire de voir s'il y a des personnes dans sa famille peut-être étendue ou dans sa communauté de foi qui peut venir aider. Il faut créer des espérances positives de guérison pour cette jeune fille également. Quand nous avons des personnes qui se préoccupent de ces problèmes et sont prêtes à s'engager, le cycle de la violence commence déjà à se briser. Donc, merci déjà pour avoir partagé cela avec nous. Mais ça, merci beaucoup. Clairement, il se pose là un problème de mariage des enfants. Et cela, parfois, est alimenté par des croyances religieuses. Et nous avons également la possibilité ici de voir l'expérience ultérieure qui pourra découler des violences des enfants sur les enfants, qui est une sorte de réplique de ce que l'enfant a vécu plus tôt. Nous allons lire une autre question. Et je vais donner 2 minutes à chacun de nos panélistes. Vous pourriez, à partir de six questions, avoir peut-être des éléments de réponse. Vous pouvez les mettre dans le chat. Donc, Julie Johnson a souligné que je suis curieuse de savoir si quelqu'un peut parler du contrôle dans les familles la structure familiale sur les enfants. Est-ce que le contrôle peut être une forme de violence? Il y a des prières, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Qu'est-ce que vous suggérez pour créer plus de changements et il y a des conséquences plus concrètes dans le système légal, dans les pays où les crimes sont connus sur papier, mais collectivement ignorés. Et je pense que voici l'un des domaines d'expertise de notre avocat depuis le Kenya. Si vous voulez réagir, faites-le dans le chat. Et voilà. Donc, comment rendre les systèmes un peu plus effectifs? Donc voilà les questions qui ont été soulevées et je vais donner la parole à Tania d'abord. Et puis on va passer à Maïcha et je vais terminer avec Suzy. Oui, honnêtement, sur la question du contrôle coercitif, je pense que comme la travailleuse sociale l'a dit, vous savez, j'ai travaillé surtout au Royaume-Uni, donc je vais parler de ce cas surtout. Du Royaume-Uni. Je pense que l'une des questions ici, c'est le manque de compréhension de ce que ce contrôle est également et comment cela est compris par non seulement les fournisseurs de services, mais les leaders religieux également. Ce qui est vraiment nécessaire pour pouvoir fournir les preuves suffisante pour que quelque chose soit perçu comme du contrôle coercitif. Dans mon cas, j'ai constaté que le système lui-même cause lui-même des traumatismes parce qu'il y a un manque de compréhension de cette habilité des personnes à pouvoir prendre des mesures concrètes Je pense que pour les adolescents vivant dans une famille coercitive ou dans un environnement coercitif, je pense que la première chose, c'est la reconnaissance et qu'ils sont réellement dans cette situation. Je pense que déjà là, c'est une étape importante dans le processus parce que quand j'ai eu à travailler avec 10 personnes, dans les familles, sous ces cas, il y avait beaucoup de manipulation. C'est très compliqué, en fait. Et 30 secondes, Tania, j'essaie de dire que le système est frustrant quand on n'est pas vraiment capable de faire avancer les choses parce qu'il y a des procédures systémiques qui ne facilitent pas les choses. Je ne sais pas s'il y a espoir dans ce sens. Je reconnais juste qu'il y a c'est une
Reconnaître la
situation très complexe. Merci beaucoup, Tania. Noah, vous avez 2 minutes. Oui, merci beaucoup. Tania a élaboré la question et il a bien répondu. Et permettez-moi de vous donner un exemple de partie de ma propre vie. J'étais une sorte de garçon un peu vilain et nous vivions dans un système de famille étendue et j'ai fait face à ces choses dans ma vie réelle. Nous avons grandi dans un environnement protectif, comme je l'ai d'abord dit, et dans notre culture, et là où j'ai grandi, là, il y avait beaucoup de sodomie entre les garçons. Nous vivons dans un environnement très protectif et nous avions ces situations. Je pense que nous devons développer une sorte de guide, ligne directrice pour rendre la parentalité plus positive parce que vous savez que si les parents réalisent que vous faites face à ce genre de choses dans votre adolescence, cela peut être résolu grâce à certaines lignes directrices, guides, références. Cela peut aider à disséminer ce genre de problème aussi dans un cadre plus large, par exemple dans les congrégations musulmanes. Nous avons, lors des congrégations des gens, de nombreuses personnes qui écoutent les sermons. Donc, je pense que cela peut être discuté avec les parents et les fournisseurs de soins et on pourrait avoir un retour, un impact positif dans nos communautés pour apporter un changement
Changement
positif.
positif
Merci.
dans nos communautés.
Merci beaucoup. Et Marisha, je ne sais pas. Vous avez déjà répondu à la première question, mais je vous donne une autre possibilité de dire quelques
Cette
mots
seconde
sur
question.
cette autre. Oui, je pense qu'il faut également considérer ce
Nous
que
devons considérer
la foi est dans ce contrôle.
a été dit que pas problème.
Est-ce que
Est-ce
pour ce cas, c'est les habits
qu'il
classifiés et pour la plupart des cas, si c'est classifié, on peut avoir des actions à entreprendre.
des types
Donc, pour
de
ces enfants, il faut observer leur comportement et voir. Vous voyez, dans certains pays, les mesures peuvent être différentes, mais en Afrique du Sud, par exemple, si les contrôles constatés sont des formes d'abus qui incluent des violences physiques et qu'il y a aussi l'abus émotionnel. Par exemple, s'il y a la peur, la confusion, un sens de perte de ses moyens, il faut agir. Peut-être parler avec l'adolescent, voir s'ils ont besoin d'aide et permettre qu'ils soient dans des environnements où ils peuvent demander de l'aide. Et si vous pensez plutôt aller plus loin, vous pouvez mener vos enquêtes davantage pour voir clairement comment catégoriser cela. Merci beaucoup. Et comme vous savez, les hommes, les jeunes garçons peuvent externaliser certains comportements. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, que les leaders religieux ont un impact très important, même sur le comportement des parents
Je vais
vis-à-vis de ces
finir
questions.
à...
Souci, vous avez quelque chose à dire? Oui, je suis un peu confuse de ce que je dois pointer. Je voulais dire toutefois deux choses. D'abord, que tous les systèmes en dessus, que ce soit le système légal, que ce soit les tribunaux, les systèmes religieux, les églises, se montrent tous dessus. Le contrôle coercitif, vous savez, c'est l'une de ces choses qui sont plutôt très importantes. Les leaders religieux sont formés à parfois au déni. Ils ne sont pas éduqués à ce genre de violence. Donc, je pense qu'il faut que je le dise ici, j'ai été très traumatisé moi-même dans mon enfance. Donc, vous savez, dans notre enfance, parfois, on avait des douleurs et on ne nous écoutait pas. Donc, si vous n'êtes pas attentif, vous pouvez mal interpréter ce genre de situation. Donc, je vais vous partager quelques exemples du contrôle coercitif. Quand je divorçais, les leaders religieux ont essayé d'atténuer les violences que je subissais. Ça m'a pris 10 ans carrément pour sortir de mon mariage à cause de cela. Vous voyez à quel point c'était compliqué. Mes leaders religieux, l'un d'eux m'aidait. Mais il y avait une sorte de contrôle sur tout. Et sur le plan financier, l'argent, par exemple, que je recevais pour élever mes enfants a été tout le temps, voilà, sapé. Ils contrôlaient tout, contrôlaient toujours plus comment je vais recevoir cela. Donc, à un moment, j'ai demandé on pouvait me rendre justice et je n'ai pas eu gain de cause, je n'ai eu gain de cause nulle part. C'était des moments très difficiles. Mon mari contrôlait tout, les finances, l'avocat, tout était sous son contrôle. J'étais toujours dans ma foi et lui, donc les abus étaient toutefois énormes. Donc, le contrôle coercitif, je l'ai vécu dans tous les systèmes que vous pouvez imaginer. Je pouvais me
C'était
résigner
là.
qu'à pleurer. Merci beaucoup, Suzy, pour votre bravoure et d'avoir pris sur vous de nous aider à comprendre comment cela impacte les vies des gens et de leurs enfants. Nous avons certainement eu à vivre des contrôle coercitif, peut-être pas dans nos familles, mais aussi dans les institutions religieuses, comme vous l'avez dit. De toute façon, nous devons confesser à un moment comment cela se fait dans nos institutions religieuses et nous devons faire les choses différemment. Il y a des moyens de le faire. Je voulais juste dire merci énormément à notre panel. Vous avez articulé très, très bien.
Apporter notre soutien à toutes les Merci.
nous remercions notre
Oui.
panel et certaines demandes des pièces jointes, il y en a ici, vous pouvez avoir accès à cela. Merci à
Sont les
tous.
participants pour partager le support avec
Passez une
vous.
très belle journée.
Merci bien.